commerçants d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, comment combattre efficacement la corruption ? Tous les pays d'Europe, à des degrés divers, sont confrontés à ce fléau. La corruption qui mine la confiance dans la classe politique, qui coûte cher à l'économie. Les pays nordiques ont la réputation d'être plus transparents, plus vertueux que d'autres, mais ils ne sont pas épargnés. En Islande, il existait auparavant une certaine naïveté sur le sujet, jusqu'aux révélations des Panama Papers. Alors que fait l'île aujourd'hui pour lutter contre le clientélisme très présent dans cette petite société ? La réponse avec Jérémy Richard à Reykjavik.
De la crise financière de 2008 et l'effondrement du système bancaire islandais aux Panama Papers, vaste scandale d'évasion fiscale avec près de 600 Islandais impliqués, autant d'affaires révélatrices qui ont permis une prise de conscience collective. Jón Ólafsson est président du conseil d'administration de l'association Gagnsæi, transparence en islandais.
En étant réaliste, je pense que l'Islande est probablement moins corrompue qu'elle ne l'était en 2008. Disons que tout à coup, tout le monde a compris que la corruption était un problème ici, alors que jusque-là, nous, les Islandais, nous entretenions quelques illusions sur nous-mêmes, et plus généralement, beaucoup de gens idéalisaient l'Islande, pensant qu'il s'agissait d'une sorte de petite démocratie parfaite et non corrompue.
Une introspection nécessaire qu'a entamée dès lors la presse locale. Aðalsteinn Kjartansson est journaliste d'investigation à la Rouve depuis 2 ans et demi. Il travaille pour le magazine d'enquête hebdomadaire Kveikur de la télévision publique islandaise.
Ce qui a changé, c'est que nous faisons moins confiance qu'avant. Nous avons cru aux informations que nous avaient données les banques. Nous avons fait confiance aux grands acteurs du monde financier. Aujourd'hui, les journalistes se méfient plus.
Dans un pays d'un peu plus de 355 000 habitants, où tout le monde se connaît, lutter contre la corruption peut apparaître comme un défi. Sur l'île s'entretient une certaine culture de la corruption amicale, vinavait en islandais, en fait du clientélisme, une certaine forme de connivence. Pour autant, la petite taille du pays ne devrait pas être un problème pour Þorvaldur Gylfason, professeur d'économie depuis plus de 30 ans à l'Université d'Islande.
Tout indique que les petits pays sont généralement moins corrompus que les grands. Dans une société de petite taille, il est plus simple de contrôler ce que font les gens. Si on pensait que c'est la taille de notre pays qui était la source du problème, que devrions-nous faire ? Est-ce qu'il faudrait baisser les bras ? Bien sûr que non. Mais pour lutter plus efficacement contre la corruption, nous devons en priorité réduire le pouvoir des élites politiques et leur capacité à créer une sorte d'oligarchie à la russe et tout ce qui va avec.
Le manque de transparence est aussi pointé du doigt et a d'ailleurs eu raison du précédent gouvernement, obligeant la tenue d'élections législatives anticipées fin 2017. Pour le journaliste Aðalsteinn Kjartansson, la priorité c'est de faciliter l'accès aux informations d'intérêt public.
Si je m'intéresse particulièrement à un politique et que je pense qu'il est corrompu, les informations sur ses intérêts en matière de finances sont des informations pour lesquelles je dois payer et débourser beaucoup d'argent. Si on les rendait accessibles gratuitement, cela faciliterait mon travail d'une part, et cela obligerait les politiques ou les individus qui font des choses qu'ils ne sont pas censés faire à rendre des comptes au public.
Des efforts ont déjà été faits en matière de transparence. Depuis 2009, les députés et les patrons d'entreprises publiques doivent notamment déclarer leurs actifs financiers, un autre emploi rémunéré ou s'ils ont des intérêts au sein d'une entreprise. D'autres chantiers sont également en cours. Páll Þorvaldsson est chef du service juridique au bureau du Premier ministre d'Islande depuis près de 15 ans.
Il y a plus de transparence dans le travail de l'administration. On améliore les règles sur l'accès aux documents officiels. On travaille sur les règles concernant le lobbyisme. On travaille sur la compétence des fonctionnaires. Parce que le service public, c'est important pour sauvegarder l'intérêt public vis-à-vis la politique.
Comprenez, garder la confiance du public. Mais pour Þorvaldur Sunna Ævarsdóttir, députée et présidente du groupe parlementaire du Parti Pirate, la lutte contre la corruption ne va pas assez loin et c'est intentionnel.
Il y a un cruel manque de volonté de combattre ce fléau de manière appropriée. Cela n'a d'ailleurs rien à voir avec la taille de notre société, mais plutôt la commodité des pouvoirs en place qui veulent un terrain de jeu propice à la corruption s'ils le décident.
Le groupe d'État contre la corruption juge aussi les efforts entrepris insuffisants. Dans son dernier rapport en avril dernier, il révèle qu'aucune action stratégique ni politique globale spécifique n'a été élaborée par le groupe de pilotage anticorruption créé en 2014 pour promouvoir l'intégrité dans les institutions de l'État islandais. Le Gréco attend maintenant de l'Islande qu'elle fasse part de tout progrès réalisé dans sa lutte anticorruption d'ici le mois de septembre au plus tard.
En Roumanie, on les appelle les orphelins de l'Europe, ces enfants laissés au pays par des parents partis gagner leur vie dans l'espace européen. Ils sont des dizaines de milliers, sans doute beaucoup plus, mais la Roumanie ne paraît pas prendre la mesure de l'enjeu. Les précisions à Bucarest de Benjamin Ribou.
Ils sont 90 000 officiellement, mais certainement bien plus dans les faits. Certaines estimations parlent même de 200, voire 300 000 enfants ayant au moins l'un des deux parents partis à l'étranger. Débutée dans les années 90, l'émigration économique s'est accélérée en 2007 avec l'entrée de la Roumanie dans l'Union européenne. Certains pensaient émigrer seulement pour quelques mois et sont toujours partis 10 ans ou plus après. La situation affecte en premier lieu les enfants à tel point que l'on parle d'orphelins de l'Europe. Pourtant, le phénomène commence à peine à inquiéter les autorités roumaines. C'est seulement depuis 2015 que la loi impose aux émigrés de désigner un tuteur légal pour leurs enfants avant de partir. Mais malgré les affiches dans les aéroports et dans certaines mairies du pays, ils sont nombreux à ne rien déclarer, jugeant que cela ne servirait pas à grand-chose. Dans la plupart des cas, les enfants sont simplement confiés aux grands-parents, qui tentent tant bien que mal de boucher les trous. Malgré souvent un soutien financier de celui parti à l'étranger, c'est avant tout au niveau psychologique que se situent les manques, avec des carences affectives et des problèmes de repli sur soi. Sans parler de l'éducation et du suivi scolaire. Dans un système éducatif en pleine déliquescence, par manque de moyens et de modernisation, l'État ne prévoit rien de particulier pour ses enfants. L'école roumaine fonctionne par demi-journée. Les enfants ne sont pas pris en charge tout le temps. Des ONG comme Save the Children, présentes dans plusieurs villes, tentent bien de pallier l'inaction de l'État en apportant aide aux devoirs, repas chaud le midi après les cours et soutien psychologique. Mais ce sont des cas isolés au milieu de générations de laissés pour compte.
La Bulgarie, c'est un peu le mauvais élève européen de la lutte contre la corruption. Selon le classement annuel établi par l'organisation Transparency International, reportage à Sofia de Damien Vodenicharov.
77e dans le monde, dernière en Europe. C'est une place peu enviable pour la Bulgarie, critiquée de toutes parts pour la corruption omniprésente. Les Bulgares eux-mêmes n'ont aucune confiance dans les institutions publiques et surtout dans le système judiciaire du pays, explique Katia Hristova-Valcheva de Transparency International.
La confiance dans le système judiciaire est la plus basse de toutes les institutions publiques. Il est important de noter les mesures à prendre. Et ce que notre étude montre, c'est que malgré quelques initiatives législatives et institutionnelles, leur effet réel est très minime.
Et pourtant, on parle de réformer la justice depuis plus de 10 ans. Au moment de l'adhésion du pays à l'Union européenne en 2007, Bruxelles a mis en place un mécanisme de coopération et de vérification pour accompagner la réforme judiciaire en Bulgarie. Et le pouvoir politique bulgare a toujours promis de suivre à la lettre ses recommandations. Promesse formulée notamment par la ministre de la Justice, Tetsika Tsacheva, peu après les législatives en 2017.
Dans tous les cas, je vais chercher à poursuivre la réforme du système judiciaire. Dans le cadre du mandat du Parlement sortant, nous avons voté un amendement de la Constitution pour accommoder cette réforme. Cela a beaucoup changé la loi sur le pouvoir judiciaire, mais il reste encore beaucoup à faire.
Pour la Commission européenne, des progrès ont été accomplis. Elle note dans son dernier rapport de novembre 2018. Elle estime que 3 critères importants, dont l'indépendance de la justice, sont remplis. Et elle prédit que le mécanisme de coopération sera terminé cette année. Ce n'est pas l'avis de l'ancien ministre de la Justice. Christo Ivanov critique vivement ce rapport, qu'il juge beaucoup trop indulgent.
Je trouve que ce dernier rapport de la Commission est une abdication scandaleuse de ses fonctions. Les leaders politiques de la Commission ont lancé une campagne pour supprimer les mécanismes de contrôle. Et cette campagne n'a rien à voir avec des résultats réels. Elle a été lancée avant d'obtenir des résultats. On n'a aucune indication qu'un pays qui était vivement critiqué pour la corruption il y a 2 ans aurait réussi à la surmonter durant ces 2 ans.
Christo Ivanov estime qu'il ne faut pas sous-évaluer les difficultés, avec notamment une constitution très rigide, très compliquée à modifier. lui-même en poste d'août 2014 à décembre 2015, avait tenté une grande réforme judiciaire. Il s'était heurté à sa propre majorité, à son propre gouvernement.
Nous avons presque réussi à entériner un amendement constitutionnel très ambitieux. C'est tout ce qu'on peut espérer dans le cadre de la constitution bulgare, qui est très rigide. Finalement, mon propre gouvernement et ma propre majorité au Parlement ont décidé de ne pas soutenir cette réforme. J'ai donc démissionné. Le Parlement actuel a élu un conseil judiciaire anémique qui fait machine arrière sur tous nos progrès.
Difficile donc de réformer un système judiciaire encore sensible à la corruption. En 2015 et 2016, le Yaneva Gate, ou l'affaire Yaneva, a fait grand bruit. Des accusations de trafic d'influence visant la procureure régionale à Sofia, catapultée à la présidence de la Cour régionale. Vladimira Yaneva aurait autorisé en échange de sa promotion des mises sur écoute illégales et aurait influencé la répartition des juges. Le Premier ministre et le procureur général ont été impliqués dans l'affaire, restée sans suite. Kalin Kalpakchiev, président de l'Union des juges en Bulgarie et ancien membre du Conseil judiciaire suprême.
La corruption s'exprime surtout dans cette logique. Les juges prennent certaines décisions en échange d'une promotion à la présidence d'une cour ou dans une cour de justice plus influente.
Comme dans Yaneva Gate, vous voulez dire ?
Oui, exactement comme Yaneva Gate. C'est peut-être la plus importante affaire de corruption juridique et il n'y a pas eu d'enquête. On a même refusé d'ouvrir une enquête. Les intérêts de beaucoup trop de personnes influentes étaient concernés.
Finalement, en guise de réforme judiciaire pure et dure, le Parlement a créé une nouvelle super-agence de lutte contre la corruption avec des prérogatives presque illimitées, le Comité de lutte contre la corruption. Pour le gouvernement, c'est un succès. Pour ses détracteurs, c'est un énième instrument de règlement de comptes.
La rénovation bâclée de Moscou et un parfum de corruption, là encore. Les travaux entrepris dans la capitale russe ces derniers mois ont été faits trop vite. Alors aujourd'hui, il ne faut pas se presser si on veut marcher sans trébucher sur les trottoirs de la ville, Étienne Bouche.
En plein hiver, la vigilance est pour un moscovite la plus précieuse des qualités. Il faut savoir garder un œil au-dessus de sa tête, car des agents municipaux provoquent des avalanches de neige pour libérer les toits. Dans le même temps, bien surveiller sa trajectoire pour ne pas risquer de glisser sur une malheureuse plaque de verglas. Mais désormais, un autre péril menace le moscovite, trébucher sur une dalle. Dans le centre-ville, elle chancelle sous le pas pressé des habitants. Ces dernières années, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a engagé un projet de rénovation colossal. Des rues entières ont été transformées. Sobianine y a fait poser des dalles identiques en un temps record. Et c'est bien le problème. Les travaux ont été effectués à la hâte au détriment de leur qualité. Résultat, les dalles de Monsieur Sobianine, censées moderniser la capitale, partent dans tous les sens. C'est une figure de l'opposition libérale qui a récemment pointé du doigt les ratés de cette politique de rénovation. À la tête d'un arrondissement de la ville, Ilya Yachine a diffusé une vidéo très commentée dans laquelle il s'adresse directement au maire. Dans le quartier très prisé de Tchistieproudi, les étangs purs, il se filme en train de surfer sur des dalles brinque-ballantes. Il estime qu'à la mauvaise qualité des travaux s'ajoute l'effet de l'agent chimique utilisé contre le gel. Le ton est humoristique, mais cette détérioration accélérée révèle, selon Yachine, l'ampleur de la corruption du secteur. Ces cinq dernières années, la ville a alloué un budget considérable à la politique de rénovation et pourtant, les moscovites l'observent avec une consternation résignée. Les mêmes périmètres de la voie publique peuvent être en travaux jusqu'à 3 fois par an.
On s'évade à Neum, une enclave bosnienne ceinturée au nord, à l'ouest et au sud par la Croatie, un petit port situé au cœur du littoral dalmate. Ce territoire que la Bosnie-Herzégovine voudrait stratégique et qui est surtout une halte prisée par les touristes et les Croates qui viennent y profiter des bas prix, Simon Rico.
Depuis 2013 et l'adhésion de la Croatie, Neum est une enclave au sein de l'Union européenne. Et cela pose de sérieux problèmes, surtout quand les barrières des douanes sont baissées. L'été, il faut parfois s'armer de patience pour traverser les deux frontières de Neum à cause des nombreux touristes qui se pressent sur la route magistrale, seule voie de passage entre Split et Dubrovnik, la perle de l'Adriatique située 65 km au sud. Cette situation d'enclave est un vieux legs de l'histoire. En 1699, la République de Raguse, l'ancien nom de Dubrovnik, en avait fait don à l'Empire ottoman pour que le sultan la protège des ambitions vénitiennes. Si Neum est l'unique port maritime de Bosnie-Herzégovine, seuls des navires de plaisance peuvent y accoster, ainsi que la minuscule flotte militaire bosnienne. La route qui relie la ville au reste de la Bosnie via Mostar attend depuis des années d'être goudronnée et les habitants utilisent tous la nationale croate. Faute d'accueillir des navires de gros tonnage, l'enclave met en avant sa qualité de destination low cost pour attirer les touristes qui visitent la côte d'Almat. Les locations y sont moins chères que dans les villes croates voisines, de même que les consommations dans les bars et les restaurants. Une aubaine dont profitent aussi les riverains croates qui viennent ici faire leur plein d'essence, leurs courses et acheter des cigarettes. Pour assurer la continuité territoriale de la Croatie et éviter les files d'attente aux postes frontières de l'enclave, les autorités de Zagreb ont néanmoins décidé de construire un pont de 2,4 km qui enjambera le bras de mer devant Neum. Les travaux confiés à une entreprise chinoise ont commencé l'été dernier. Ce projet dont on parle depuis la fin de la Yougoslavie met très en colère les Bosniaques et inquiète les 4600 habitants qui disposent pourtant presque tous du passeport croate. Avec ce pont, ils redoutent que les touristes ne s'arrêtent plus ici et que Neum meurt à petit feu.
Écoute ce disque. Écoute ce disque.
La chronique musique de Vincent Théval. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette.
On écoute les Big Bird aujourd'hui.
Un peu de rock psychédélique suédois aujourd'hui avec un nouveau titre de l'excellent groupe les Big Bird, quelques mois seulement après la parution de son deuxième album Iran, Iraq, Aiki, où le quatuor explorait toutes les facettes du psychédélisme, du rock le plus énervé aux divagations les plus planantes. Le groupe s'est formé en 2011 à Stockholm autour de Joakim Alund et Franz Johansson, deux piliers de la scène suédoise. Et un petit coup de pouce du destin va mettre l'américain Anton Newcombe sur leur chemin. Rencontré chez un disquaire, le chanteur de Brian Johnston Massacre va inviter les Big Bird dans son studio à Berlin, où le groupe enregistre son premier album. Après un deuxième disque plus abouti, c'est donc un nouveau single, Mannen Utanför, qui vient confirmer ce printemps la pleine santé du groupe.
Suédois de Big Birds. Merci Vincent Théval. Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot, à retrouver en podcast sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À bientôt.